c'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Max Dosolm.
Aujourd'hui au programme, Feu d'artifice d'Igor Stravinsky, qui vous est présenté cette saison par l'Orchestre National de Lyon. Feu d'artifice occupe une place à part dans l'œuvre de Stravinsky. Il s'agit d'une pièce orchestrale de jeunesse et de seulement quelques minutes qui représente pourtant un véritable défi pour les orchestres et leurs chefs. Dans cette fantaisie symphonique, les notes fusent dans tous les sens, les accords éclatent dans des rythmes complexes et les pupitres rayonnent de mille feux. Avec cette fantaisie orchestrale créée en 1909, Stravinsky entre, à l'âge de 27 ans, dans la cour des grands. Feu d'artifice est le cadeau d'un élève à son maître, celui que fait Stravinsky à son professeur qui l'admirait, le grand Nikolaï Rimsky-Korsakov. Ce présent n'est pas offert directement au compositeur, mais à sa fille, Nadeja Korsakov, qui se marie avec un autre élève de Nikolaï, un certain Maximilian Steinberg. Stravinsky profite de cet heureux événement pour leur dédier une pièce festive. Il écrit Feu d'artifice lors de l'année 1908, en seulement 6 semaines, dans sa maison d'Oustilug. Comme à son habitude, il envoie une ébauche de la partition à son maître pour avoir son avis. Hélas, le courrier de Stravinsky lui est renvoyé avec cette mention lapidaire, destinataire décédé. Malade, le vieux Rimsky-Korsakov vient de s'éteindre quelques jours seulement après le mariage de sa fille. La mort de Rimsky-Korsakov est un drame pour Stravinsky. Le jeune étudiant interrompt l'orchestration de Feu d'artifice et compose un chant funèbre à la mémoire de son professeur, une partition malheureusement perdue. Quelques mois plus tard, en 1908, Stravinsky achève l'orchestration de Feu d'artifice et l'œuvre n'est finalement créée que le 6 février 1909, à Saint-Pétersbourg, sous la direction de l'éminent chef d'orchestre Andrei Siloti. Une œuvre résolument plus moderne et singulière que tout ce que Stravinsky avait pu composer auparavant. Quelque chose d'improvisé et de trivial, d'irrégulier et à la fois d'étonnamment sûr, fait qu'en cet hommage à Rimsky-Korsakov, il ne se retrouve rien de l'ordonnance académique du maître, sauf en certains clapotis de flûte. La sonorité générale reste offensive, telle une décharge continue. Ces mots du musicologue français André Scheffner résument bien l'esthétique inattendue de cette pièce pour grand orchestre symphonique, avec une importante place accordée aux percussions et au vent. Comme au début d'un feu d'artifice traditionnel, tout commence par le lancement de quelques fusées incarnées par de petits motifs joués par les flûtes, les clarinettes et un second par les violons, bientôt rejoints par des cors et des trombones. Comme pour former un bouquet, ces motifs se font de plus en plus nombreux et se répandent progressivement à tous les instruments. Cette introduction est un exemple parfait de ce que l'on nomme la musique descriptive, un terme qui caractérise des œuvres où le compositeur cherche à imiter un élément extra-musical. Pour évoquer la montée des fusées dans les airs, Stravinsky utilise principalement des motifs ascendants, c'est-à-dire qui partent du grave pour aller vers les aigus. Il construit ses lignes avec des intervalles minuscules, des demi-tons, ce qui donne réellement l'impression d'entendre le bruit de feux d'artifice qui s'envolent. Qui dit feu d'artifice dit bien sûr détonation. Celle que l'on vient d'entendre était un accord joué par tout l'orchestre fortissimo. Dans la résonance de cette explosion prodigieuse, Stravinsky introduit un nouveau thème qui contraste avec le premier par son calme et son mystère. Il est joué par les flûtes et les clarinettes, accompagné par deux clarinettes basses et les cordes. Puis un hautbois déchirant chante sa plainte à laquelle répond une clarinette et des cordes en harmonique, un mode de jeu spécifique où les violonistes, altistes, violoncellistes et contrebassistes ne font qu'effleurer la corde de leur instrument afin de donner à entendre un son fantôme, très aigu. Cet épisode, qui peut faire penser à l'apprenti sorcier de Paul Dukas par exemple, débouche sur un nouveau thème, très lyrique, joué par le pupitre des cordes. Une parenthèse qui ne dure que quelques secondes, car, équilibre oblige, Stravinsky referme sa partition de la même manière qu'il l'a ouverte, par le retour des motifs ascendants et descendants et l'arrivée d'une fanfare prodigieuse. C'est bel et bien l'heure du bouquet final. Feu d'artifice et l'adieu de Stravinsky à la tradition. Rien de romantique dans cette œuvre qui annonce les musiques futures du compositeur. Un style qui plaît particulièrement à un spectateur discret lors de la création de la pièce en 1909. Il s'appelle Sergueï Diaghilev et dirige les ballets russes à Paris. Les commandes de l'Oiseau de feu et surtout du Sacre du printemps suivront. Cet épisode a été produit par l'Orchestre National de Lyon. La version de Feu d'artifice utilisée ici est interprétée par l'Orchestre Symphonique de Seattle, dirigé par Gerard Schwartz. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.